Aujourd'hui avec Serge, nous allons voir si nous devons tailler les gros arbres ou pas. On va voir aussi du côté des traitements et engrais pour la saison, les plantes d'extérieur en pot, les grosses plantations. On va voir un habillet en grillage et puis on va voir un petit peu ce qu'il va falloir poursuivre de la taille du printemps.
Bonjour. On va entamer le premier thème sur les tailles des gros arbres, si on doit tailler ou pas. Donc on va parler bien sûr des platanes, des micoucouliers, des tilleuls, tous ces gros arbres marronniers, c'est un très joli arbre. Donc tous ces gros arbres-là, ils commencent à s'apercevoir qu'il ne faudrait pas trop les tailler. Dans certains endroits, ils taillent... Tous les méchants élagueurs qui sont pas très compétents, qui taillent tous ces gros platanes à zéro, comme on dit, qu'il ne faudrait pas faire. Mis à part si il y a certaines branches où il y a des fils au milieu qu'on peut enlever tout simplement, il faut savoir qu'un platane, il a des départs. Quand on coupe des platanes, il faut savoir où on va couper des parts de branches, pas ne couper tout à zéro comme font certains élagueurs. Il n'y a pas beaucoup de très très bons élagueurs ici dans la région. Il n'y en a qu'un que je vais nommer parce que c'est un très bon élagueur, c'est Monsieur Abelia. Donc c'est à surveiller. Les marronniers, les platanes, les micoucouliers, les tilleuls, tous ces arbres-là sont très fragiles aux grosses coupes. Le problème, c'est que maintenant, les élagueurs, quand ils font des grosses entailles, ils ne cicatrisent pas derrière. Ça, je ne comprends pas qu'avec tous les moyens qu'on a actuellement, on a des camions, nacelles, tout ça, qu'on pourrait faire sans problème et sans accident dans les grandes communes, les petites communes, qui ne fassent pas ça avec les entreprises qui interviennent et qui l'imposent automatiquement. Certaines grandes villes le font, donc il faudrait commencer peut-être un petit peu à se réveiller. Je pense que c'est très important déjà au niveau des arbres. Déjà, il faut savoir que les arbres, c'est une source de vie, ça nous maintient. La végétation, la chlorophylle, c'est très important pour qu'on ait un bon air en pleine ville, donc il faut y songer, soyez raisonnable dans vos tailles. Voilà James. Donc au niveau des gros arbres, ce qu'il faut surveiller, surtout de ne pas tailler n'importe où, comment, et quand il n'y a pas lieu de tailler, laissez-les pousser tranquillement ces arbres et ils seront plus beaux et encore ils n'auront pas de problème de maladie ou autre, vous verrez, ça n'a rien à voir. Faites simplement la comparaison avec un arbre taillé et un arbre qui n'est pas taillé, style platane, micoucoulier, tilleul ou marronnier, on va le voir de suite. On va passer à la deuxième question.
Les traitements et engrais pour la saison.
Oui, traitements, engrais, les traitements surtout, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de pucerons, tout cette petite, les cochenilles, tout ça, donc c'est à surveiller. Bien sûr, dans les traitements, il faut toujours faire du traitement dans le bio. Il y a beaucoup de traitements bio dans les jardineries maintenant, donc c'est à ne pas s'en priver. Les traitements se font toujours le matin ou le soir très tard. Ne pas faire ça en plein soleil, c'est pas bon du tout pour le végétal. Donc faire en pulvérisation bien sûr, toujours respecter bien les dosages qui sont marqués derrière la petite boîte, ça ne sert à rien de mettre un doseur ou deux de plus, c'est pas bon du tout pour la plante, ça risque de la brûler, donc c'est à respecter, c'est très important. Donc dans ces traitements bio, pareil, après on a les engrais. Engrais pour les massifs de rosiers, tout ce qui est arbustes, les haies, tout ce que nous avons pour les plantes en pot, donc plutôt en liquide, c'est mieux pour l'arrosage, c'est plus pratique avec un arrosoir. Pareil, donc en engrais bio toujours, bien surveiller les dosages. Et en pot, par contre, il faudra faire un arrosage en engrais liquide à peu près tous les 10 à 15 jours pour que les plantes soient toujours belles en pleine saison, en fait, qu'ils fleurissent le plus longtemps possible, comme j'ai déjà dit une fois. On a déjà commencé à planter tout ce qui est plantes annuelles, œillets d'Inde, pétunia, gazenia, bégonia. Tout ça dans nos jardinières ou nos massifs de jardin. Donc quand vous avez vos œillets d'Inde ou toutes les petites fleurs fanées, n'oubliez pas de les enlever tout simplement pour qu'il y ait une floraison qui revienne plus rapidement derrière. Pareil pour les rosiers, tout ce qui est rose fanée, pensez à les couper toujours au-dessus d'une feuille. Donc ça sera mieux pour votre rosier. Et puis c'est pas joli de voir des roses sèches sur un rosier, c'est pas terrible. Donc à bien surveiller au niveau des engrais, à ne pas mettre en plus des engrais, regardez toujours bien les dosages, comme j'ai dit derrière, ça sert à rien de surdoser, parce que vous pouvez avoir un risque de brûlure sur vos plantes, et vous verrez, les feuilles deviennent marron après, donc ça a été brûlé en fait par les engrais qui ont été trop puissants. Même si c'est du bio, si vous mettez 2-3 doseurs en plus, ça brûle, hein, donc c'est à bien surveiller et à bien faire attention. Et après, on va parler des plantations en pot, parce qu'on est toujours dans la plantation actuellement. Là, ce qu'il y a de très joli, il y a beaucoup de très très gros pots en résine, dans du gris, grenat, un peu toutes couleurs confondues, où on peut planter du gros végétal, style olivier, photinia, sur tige qui fait une boule en haut, des éléagnus, beaucoup de gros arbres qu'on peut se permettre de mettre dans des gros pots, parce qu'il y a du très très gros diamètre maintenant, donc c'est très sympathique. Si on met des oliviers autour d'une piscine ou palmiers ou quoi, il faut donc prendre du gros pot. Ce qu'il faut faire, bon, vous savez qu'en dessous il faut percer, il y a déjà des trous qui sont préparés, il faut les percer à la perceuse donc pour qu'il y ait toujours un bon drainage. Après il va falloir mettre sur au moins 10 cm des cailloux ou des billes d'argile pour qu'il y ait une bonne évacuation, pour pas que les racines se mettent de partout, c'est beaucoup mieux pour la plante. Et quand on plante un olivier ou tout ce qui est plante d'extérieur en gros végétal, il faut prendre un terreau plantation, donc plus dans la terre végétale que du terreau universel qui est plus léger, c'est pas bon pour la plante. Donc ça c'est très important, quand vous achetez un olivier, demandez un olivier ou une plante d'extérieur, un bon terreau, plantation ou terre végétale en sac à mettre à la plantation, donc bien tassé quand on met ça. L'olivier, ne l'enterrez pas trop. Toutes les plantes que vous mettez dans des pots, il faut quand même qu'ils sortent un petit peu, qu'ils soient en 10 cm à peu près, grosso modo, en dessous de la partie haute du pot, pas plus bas, parce qu'après, c'est pas très joli. Bien tassé, bien arrosé, puis après, en phase finale, qu'est-ce qu'on va faire? On peut y mettre du mûche cacao, des écorces de pin, de la pouzzolane, des petits galets. Il y a beaucoup de petits galets très jolis maintenant, pour faire très joli à l'œil. Si on met ça autour d'une piscine, c'est sympathique. Pourquoi pas après y mettre aussi du géranium retombant, des plantes, si vous n'avez pas trop le temps d'arroser, mettre des petites plantes grasses, style ficoïde, tout ce style de plantes-là qu'on n'arrose pas beaucoup, une fois par semaine. Donc c'est à regarder, à bien surveiller, comme je dis. Par contre, les oliviers aussi, on arrose ça la première année, on va dire, allez, une bonne fois par semaine ou deux, pas plus. Surveiller s'il y a des grosses chaleurs, mais toujours une bonne fois, toujours de préférence le soir ou le matin. C'est à surveiller, mais ne jamais arroser tous les jours, c'est pas bon du tout pour le végétal. Ce n'est pas recommandé, parce qu'au niveau racinaire, après, ça pourrit, et c'est pas bon du tout pour la plante. Donc pensez-y, surtout faire les arrosages le soir ou le matin, à cette époque-ci, parce qu'il commence à faire très très chaud, et la plante ne supporte pas l'arrosage en pleine journée, c'est pas bon pour les racines, et puis ça va vite s'évaporer, donc ce n'est pas très intéressant.
Et si on faisait une petite pause musicale avant de poursuivre?
Oui, tout à fait.
Avec notre ami Pierre Perret, Donnez-nous des jardins. Chanson de circonstance.
Donnez-nous des jardins. donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école, c'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y'a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises,
d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles le vol du bourdon, si la reine s'émerveille, mon goûter sera bon. Les mulots gambillent, le hibou vend des poux, une jolie chenille est venue tremper une soupe au chou. Et un pauvre mille-pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qui ont besoin de ressemeler.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises,
d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. Dire au hérisson qui peut aller se raser, au vieux saule pleureur de pas trop se démoraliser, et à la menthe religieuse de pas bouffer son mec, que même ces dames du MLF trouveraient pas ça correct. Quelle vie merveilleuse, loin des marteaux piqueurs, des marchands de béton qui feraient bien mieux de vendre des choux-fleurs. Laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs, même les ânes en ont besoin autant que les promoteurs.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises,
d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins plein d'animaux marrants, ça nous changerait un peu nos parents.
Donnez-nous des jardins pour y faire quoi, monsieur Serge ?
Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un grillage qui est un peu à l'abandon, ou un grillage tout simplement qui est en place et qui on n'a rien dessus, pas de végétation, ou pas de haies, rien.
C'est quand ce bricolage, création artisanale ?
Non, c'est pas du bricolage, James, c'est du jardinage, de l'art.
J'ai l'impression de bricoler dans le jardin.
L'art du jardin, c'est important. Oui, mais toi, tu es un grand jardinier de la biodiversité, toi.
Moi, je suis pour la biodiversité, effectivement.
Non, mais moi aussi, j'aime pas les jardins taillés en carré, en pointu. Et on peut faire des jardins très simples et très jolis avec des trucs, des tailles normales, sans faire des trucs carrés, pointus, en cône. C'est pas très joli. Après, oui, c'est sûr, si tu as un château, c'est pas pareil, quoi. On va revenir, donc, comment habiller un mur? Comment habiller un mur, si on a un grillage qui est ancien ou un grillage qui est en place, tout simplement, on peut planter du lierre qui va couvrir tout le mur. C'est très sympathique. Le lierre, vous le plantez à peu près tous les 2 mètres, 2 mètres 50, grosso modo. Le lierre, vous avez du lierre vert, du lierre panaché, gloire marengo, la feuille est plus petite. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça pousse relativement vite et ça va couvrir très très bien le grillage, puisqu'après, il va s'accrocher tout seul dessus, en fait. Et après, donc, ça fait vraiment un beau rideau de verdure. Une fois par an, bien sûr, il faut le tailler pour l'égaliser en hauteur sur les côtés. Ça demande moins d'entretien qu'une haie normale parce que ça prend moins en largeur et tout, c'est mieux. Une fois qu'il est implanté au niveau de l'arrosage aussi, c'est moins embêtant parce que c'est très rustique. Qu'est-ce qu'on peut planter aussi d'intéressant? Il y a la vigne vierge qu'on voit. Par contre, la vigne vierge, elle perd son feuillage, c'est différent, mais qui est très joli parce qu'à l'automne, elle a un feuillage rouge. Donc on peut faire une partie dans un certain coin et mettre ça, et l'autre partie du lierre. On peut mettre de la clématite aussi, qui est très jolie, parce que l'avantage de la clématite, c'est qu'il y a des fleurs, donc c'est très joli, ça s'accroche bien sur les murs aussi, sur le grillage, pardon. On peut mettre aussi du rosier grimpant, donc c'est intéressant, rosier grimpant, à certains points, voir après c'est à bien réfléchir, comme je dis, un jardin, bien le réfléchir chaque fois avant de faire un jardin. Rosier grimpant, l'avantage, c'est que ça va fleurir, toujours acheter du rosier grimpant dans du remontant, c'est-à-dire floraison du mois de mai jusqu'au gelé. Donc vous allez avoir des fleurs jusqu'au gelé, du mois de mai jusqu'au mois de décembre, c'est intéressant. Et après avec toutes les couleurs confondues, petite rose, grosse rose, il y a pas mal de couleurs dans les rosiers qui sentent bon, moins bon, donc c'est à vous de choisir. Hein. Donc ça c'est à faire et allez voir sur place, comme je dis chaque fois, dans les pépinières et les jardineries. Donc c'est à regarder. Faire un mur végétal comme ça, c'est très très beau, donc vous verrez, c'est très sympathique. Comme je disais, j'ai dit il y a quelques mois, là, avant on se servait du lierre, tout ça, la vigne vierge, quoi, on la mettait beaucoup sur les murs. Pourquoi ? Pour isoler justement contre le froid et la chaleur en été. Et c'est vrai que franchement, quand on a ça sur des murs, il faut pas se laisser gagner au niveau des tuiles, tout ça après. Mais ça isole vraiment au niveau du bruit et du froid en hiver. Donc nos ancêtres étaient pas bêtes quand même, ils savaient ce qu'ils faisaient, donc ils se servaient du végétal pour faire des trucs comme ça, c'est magnifique.
La suite, habillage du grillage, t'as d'autres conseils à nous donner pour...
Après en plante grimpante, oui, j'ai pas cité la glycine, la bignonne, parce que ce sont... Des grosses plantes avec des branches un peu plus importantes qu'on met plutôt sur des pergolas parce que ça brille vite au niveau du si vous avez après un grillage qui est très rigide, oui, ça peut se faire, mais bon, ça va plutôt sur des murs ou des grosses pergolas qui, la bignonne, c'est très joli, bignonne ou trompette de Jéricho et la glycine que tout le monde connaît aussi. Donc ça, ce sont des plantes grimpantes qui poussent très bien et qui poussent très vite aussi. Tu avais une question, James, non ?
Absolument pas. Pas pour cette partie-là. Ce sera pour la suite après.
Donc voilà, au niveau des plantes grimpantes. Après, on a des plantes grimpantes qui sont annuelles aussi, style hypomée, tout ce style de plantes-là qu'on peut planter, qu'on achète des fois en pot directement, qui fleurissent tout l'été, qui grimpent sur le grillage de partout. Donc c'est très joli, les hypomées, toutes ces plantes qui poids de senteur qu'on trouve dans le commerce, donc c'est à voir aussi. Voilà, donc on va passer dans la cinquième rubrique.
La poursuite de la taille du printemps. Alors on a commencé des tailles au printemps, c'est ça, il faut poursuivre quelques...
Non, tout ce qui a fleuri au printemps, comme j'ai dit, au mois de mars, avril, mai maximum, donc tous les arbustes à floraison printanière se taillent après la floraison. C'est très simple. Donc style forsythia, les cognacées du Japon, les keria, toutes les plantes qui fleurissent au printemps, c'est pas compliqué, vous pouvez les tailler maintenant. Là, on va être encore allé jusqu'à la fin du mois, ça va aller après, il faudra arrêter bien sûr. Bon, si vous avez quelques petites repousses qui dépassent un peu sur les hauteurs, vous pouvez les enlever, ça va pas les tuer. Mais bon, là, s'il y a encore des grosses parties, des branches un peu plus importantes qui font 81 mètres, vous pouvez couper. Ça va pas apporter tort au végétal. Donc faites-le, parce qu'au contraire, tout ce qui est arbustif comme ça, ça lui fait du bien pour le végétal. Et c'est pas très joli à l'œil quand les branches partent un peu dans tous les côtés, dans un jardin. Il faut savoir un peu maîtriser de temps en temps. Et toujours laisser sur le bas, comme je dis, minimum une hauteur de 50. C'est plus joli parce qu'on voit le pied de l'arbuste, c'est plus joli à l'œil, esthétiquement. Enfin, pour moi, professionnellement, hein. Comme je dis chaque fois, voilà. Après, donc, on continue bien sûr les floraisons, tout ce qui est floraison d'été, hein. Les œillets d'Inde, les gazénias, les bégonias, tout ce qui est les fuchsias, tout ce qu'on plante dans les jardins, les massifs, les jardinières actuellement. Donc, dans les jardineries, y en a de partout, des fleurs, donc c'est à bien regarder. Toujours regarder, comme je dis, enfin, la plupart des fleurs qui sont annuelles là, dans les jardineries actuellement fleurissent une grande partie de l'été, on va dire. Ce qui fleurit le plus longtemps possible, à ma connaissance, c'est l'œillet d'Inde, qui va fleurir jusqu'au mois de décembre. C'est la fleur qui fleurit, l'œillet d'Inde, rose d'Inde, qui a la fleur est beaucoup plus grosse. L'œillet d'Inde, vous avez du jaune, de l'oranger et du jaune, jaune et noir, deux couleurs mélangées avec. Donc à ne pas s'en priver, ça vraiment c'est très joli quand on met ça dans du gazon parce qu'au niveau de la couleur ça en sort très très bien. Après on a du gazénia qui est très joli aussi parce que quand le soleil arrive, la fleur s'ouvre, c'est très beau et le soir la fleur se referme en fait. Donc c'est très sympathique, le bégonia aussi très beau, hein, géranium que tout le monde connaît. On a pas mal d'autres plantes à voir sur place et toutes les vivaces, comme je dis chaque fois, qui sont plus chères au départ. Mais l'avantage d'une vivace, c'est que ça revient toutes les années, quoi. Donc le gora, le rudbeckia, les gaillardes, toutes ces plantes-là. Et en plus, l'avantage, c'est que le gora, la gaillarde, rudbeckia, en grande partie, fleurissent pratiquement jusqu'au gelé aussi. Donc c'est très intéressant parce qu'on a la floraison très très longtemps dans le jardin. Donc faire un massif bien précis de vivace à un endroit, voir au niveau des hauteurs, bien réfléchir à l'avance. Pour les annuels, donc il faut savoir aussi que pour les annuels, il ne faut pas les planter trop trop serrés. Minimum de plantation, les œillets d'Inde, tout ça, c'est entre 20 et 25 cm. Ça ne sert à rien de trop serrer les petites fleurs parce qu'après ça va doubler en volume, donc ne pas trop les serrer, c'est pas très joli. Ce qu'il faut faire quand on fait des massifs, qu'on a parlé une fois, toujours faire du massif en relief, c'est plus joli à l'œil. Après, en rajoutant du mûche cacao, des écorces de pin pas très, très grosses, c'est plus joli à l'œil et ça va garder l'humidité plus longtemps, l'arrosage, donc c'est beaucoup mieux pour la plante. Pareil dans des jardinières ou des gros pots, comme on a parlé à peine, n'hésitez pas de mettre ça, c'est très intéressant. On va continuer aussi donc à tailler toujours les haies, parce que les haies, elles poussent en pleine saison. N'ayez pas peur de tailler les haies, donc sans problème. Il faut le faire, donc c'est à voir et à surveiller. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui font des chemins, pas mal de chemins, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont des grands jardins, ils n'ont jamais fait de chemin. Donc, il faut savoir que quand on fait un chemin dans un jardin, Pour passer, je parle en chemin en piéton, il faut qu'il fasse minimum 1,20 m de largeur. Hein. Pas plus petit parce qu'après c'est pas bien. Donc mettre un géotextile quand vous avez fait votre largeur, longueur que vous désirez, pour éviter que l'herbe repousse. Donc mettre un géotextile et après mettre le gravier que vous allez choisir, pas trop gros parce que pour marcher dessus c'est pas très pratique. Il va falloir bloquer le chemin avec des petits rondins ou de très beaux galets sur les côtés, tout simplement. Et donc après, voilà, après en phase finale, bien rouler ce que vous avez mis par-dessus, le gravier ou ce que vous allez mettre. Donc c'est à choisir. Moi je dis toujours en départ d'un chemin, et à chaque extrémité, en entrée et sortie, mettre deux belles plantations sur tige en boule, c'est très joli à l'œil ou en cône. Ça précise bien l'entrée et la sortie, c'est sympathique. Ou alors, si vous n'avez pas la possibilité, mettre ça dans des gros pots, c'est très beau à l'œil.
Et puis, pour indiquer la direction à suivre, peut-être on peut prendre aussi des nains de jardin.
Oui, si ça te plaît, James, pourquoi pas. Après, on peut mettre des petites lampes solaires C'est très joli qu'on voit ça de loin. D'ailleurs, ça se fait beaucoup dans les jardins maintenant. On met ça au pied des oliviers, des massifs, entrée de maison. Donc, c'est pas un prix très très cher. Donc, ne vous en privez pas. C'est très joli parce que ça prend le soleil de la journée et le soir, ça s'allume, James.
Oui, c'est très
chouette. Quand on est rentré dans l'apéro, tu vois, on arrive à avoir l'entrée, c'est plus pratique.
Non, mais moi, j'ai ça sur mes lunettes.
Ah, d'accord.
Pour voir clair.
C'est pas mal. J'avais pas pensé à ça, tiens.
Oui, si. Non, mais pour les gens qui font l'apéro régulièrement, c'est nécessaire. C'est un outil indispensable. C'est comme un monoculteur ou une binette, c'est dans le jardin.
Donc j'ai un client, je vais finir avec ça. On avait parlé d'une, il y a pas 3, 4, 5 mois en arrière, des buses en béton qu'on met tout au prêt à l'emploi, en fait, pour faire des puits.
Oui,
ou des...
exact, ouais.
J'ai un client qui a fait ça et qui m'a fait voir, donc vraiment, il m'a dit, vous avez une idée magnifique. Donc il a mis deux buses en hauteur, ça fait presque un mètre dix, il m'a dit, ou un mètre vingt, je ne sais plus. Donc il a habillé avec des galets, tout simplement, où il a fait des petits joints en sable jaune, très beau. Et après, il a trouvé une belle ferronnerie qu'il a mise sur la hauteur avec un vieux seau un peu en zinc d'avant, avec de belles plantes dedans. Franchement, c'est très joli, donc... ne vous en privez pas si vous avez l'occasion de faire ça. En plus, une buse, c'est pas très cher. Je crois que ça vaut même pas 70-60 euros. Après, il faut trouver des galets. Malade à la Durance, on va prendre quelques galets, non ?
J'en profite que tu parles de ce thème par rapport au puits pour te demander quelle est la façon la plus efficace de faire un forage dans son jardin. Quand on ne sait pas encore qu'il y a une source.
Eh bien, après, il faut trouver des gens qui cherchent justement les endroits où il y a de l'eau.
Oui, ça, oui.
Parce que ce n'est pas évident. Après, à moins que tu connaisses l'endroit où il y a de l'eau, vraiment, dans ton jardin.
Oui.
Il va falloir creuser ou acheter une tarrière, tu sais, pour faire la profondeur maximum, pour retirer toute la terre. Et après, il va falloir mettre des buses, comme on a parlé à peine, justement... Pour ancrer.
Oui, une fois que tu connais tout ça, le système de forage que tu peux amener dans un jardin, parce qu'il y a des engins, je pense.
Oui, il y a des engins donc, qui se louent même. Donc, que tu peux, tu as des tarières qui se louent pour si tu sais vraiment où il y a l'endroit précis pour de l'eau. Tu prends une tarière, tu fais ton trou, tout ça, et en fur et à mesure, tu mets tes buses dedans.
Oui, c'est ça. C'est
et après, à fur et à mesure, tu vois comment ça va se passer. Quoi.
Donc, arrivé à 30-35 mètres...
Non, 35 mètres, c'est déjà... Oui, quand tu arrives déjà à 5 mètres, même si c'est déjà pas mal...
Il faut vraiment savoir à quelle profondeur...
Oui, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'après, il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans, hein, qui vont te dire, là, il y a vraiment de l'eau. Moi, je l'ai vu une fois du côté de Banon, le gars, il ne s'était pas planté. Bon, il a fait quoi
Sourcier.
Sourcier, en fait, sur 4 mètres, le gars, il est venu, il a creusé avec une pelle et il a trouvé de l'eau. Donc après, comme je t'ai dit, il a mis des buses et tout, tout nickel, une pompe après l'intérieur, et puis voilà. Hein. Le gars, il a arrosé son jardin tranquillou, quoi, en fait, c'était super bien. On va parler aussi un peu de, puisque les gens, là, maintenant, c'est les grandes sorties dans la nature. Ne jetez pas les papiers en pleine nature, c'est pas bien. Quand vous faites un petit camping, un petit déjeuner à Esparron, au bord de mer, n'importe où, pensez à récupérer tous vos petits papiers dans un petit sac.
Les papiers, c'est pas bien, c'est le moins grave, mais il y a aussi, surtout, cet abominable plastique.
Oui, les plastiques. Je comprends pas qu'à l'heure actuelle, on ait encore des plastiques. Les plastiques et les bouteilles, qui est dangereux pour le feu, c'est très important.
Donc, par exemple, pour les bouteilles... On est bien d'accord qu'il vaut mieux avoir une gourde remplie d'eau du robinet que d'avoir de l'eau soi-disant minérale remplie de particules de plastique qui vont d'ailleurs dans l'appareil digestif et que c'est vraiment pas très bon.
Très dangereux en plus. Tout à fait, tu as raison James. Donc quand vous allez faire des week-ends, des journées en promenade dans la nature, en bord de mer, franchement, ramenez vos déchets. Il y a des poubelles de partout maintenant, donc... Et c'est à surveiller, à faire. C'est tellement beau la nature qu'il faut faire très attention. Il va y avoir les vacances aussi. Je parle un peu des animaux parce que j'aime bien les animaux. N'abandonnez pas vos chiens, vos chats comme ça n'importe où. Donc, il faut savoir qu'un chien, un chat, c'est un être vivant comme nous. Et c'est pas beau de faire ça, d'abandonner un chien ou un chat sur la route ou dans une forêt. Moi, je l'ai vu, ça, donc c'est très important.
Même sa grand-mère, hein, c'est pas bien.
Oui, bon, la grand-mère, encore ça va, j'aime ça.
J'amène toujours une petite touche de plaisanterie, parce qu'en fait, c'est très très grave, cette histoire de plastique, il y a une cohérence entre tous les thèmes que tu abordes là, à partir du jardin, tu aimes être dans ton jardin, avec ton chien, avec ton chat, tout ça, ça se respecte.
En 2019, comme tu dis, d'avoir encore du plastique comme ça, c'est abominable. Voir ce qui se passe dans les océans, la Méditerranée, les plastiques qui se ramassent, les trucs. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là, qui font des trucs, parce qu'autrement, ça serait abominable. Donc,
absolument.
James, tu sais que jardiner, c'est la santé, donc à ne pas s'en priver.
Hein ? Ben oui, carrément.
Et il faut le faire, il faut y penser, donc... Voilà, donc si vous avez un souci, vous pouvez téléphoner à Serge le paysagiste au 06 23 50 94 97 et je serai ravi de répondre à vos questions et vous donner des trucs, des directives si vous ne savez pas. Voilà.
Oui, vous pouvez nous contacter à partir de notre site fréquencemistral.com où vous avez nos coordonnées. Vous pouvez même poser des questions et ça nous permettra de vous y répondre lorsqu'on fera le direct. C'est une émission qui a lieu tous les 15 jours. D'ailleurs, prochain rendez-vous, Serge ?
Dans 15, hein, James.
Dans 15 jours, même jour, même heure.
Voilà, donc je tenais à remercier l'équipe de Fréquence Mistral, James, mon grand jardinier, et tous nos gens qui nous écoutent, bien sûr, sur toutes les ondes de Fréquence Mistral. Merci et au revoir.
Merci beaucoup, bonne journée. Et sur Fréquence Mistral, évidemment, vous pourrez réécouter cette émission en podcast.